Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
D'aucuns disent de lui que c'est un prêtre vagabond, surnom la plupart du temps plein de tendresse. Il faut dire que le père Antoine Renaud a en effet un ministère bien particulier. Incardiné au diocèse de Pamiers, le père Antoine Renaud est prêtre itinérant. Pas de paroisse pour ce jeune prêtre, mais autant de clochers que compte le diocèse. Chaque semaine, avec sa caravane, le père Antoine débarque dans un village et va à la rencontre de tous ses habitants, surtout de ceux qui ne sont pas des piliers de sacristie. Bonjour. Père
bonjour,
Antoine.
Bonjour.
Donc évidemment, cela va sans dire, vous êtes l'unique et seul invité de ce plateau. Donc Père Antoine Renaud, vous êtes prêtre donc itinérant pour le diocèse de Pamiers. Alors, vous avez certainement plein de choses à nous raconter. Dites-nous déjà si la présentation est juste. Déjà, vous avez commencé il n'y a pas très longtemps, en fait, votre mission, c'était au début de l'année. On a vu passer un article dans La Croix, donc moi, c'est ça qui m'a donné l'idée. Et puis, là, en allant sur une page internet qui raconte votre mission, on voit que l'envoi est très récent.
Oui, tout à fait. C'est un envoi qui a été donné par Monseigneur Echen, l'actuel évêque de l'Ariège. Et qui s'inscrit dans une expérience plus ancienne, qui remonte à 3 ans, où j'avais déjà commencé un petit peu à rejoindre des gens dans des villages en y allant à pied. Et puis, on m'a donné une caravane récemment, et j'ai compris, je l'ai pris comme un signe du bon Dieu pour que je puisse aussi tenir sur la durée cette mission itinérante dans les villages.
Alors juste pour vous présenter, je ne sais pas, vous avez quel âge, vous êtes ordonné depuis, j'ai cru comprendre, vous avez été pendant longtemps, ce qui n'est plus le cas, le Benjamin du diocèse, c'est ça?
Oui, alors je fête cette année mes 10 ans d'ordination, j'ai 38 ans, et cette année, au mois de septembre, un nouveau prêtre sera ordonné, Cédric. D'ailleurs, je vais cette semaine, je pars dans son village d'origine pour aller voir les gens. Donc voilà, depuis 10 ans, j'étais le dernier prêtre ordonné, oui, c'est vrai.
Donc vous avez une mission donc très particulière. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? C'est-à-dire que donc vous avez été envoyé en mission par votre évêque et qu'est-ce qu'il vous demande en fait? Vous êtes quoi? Un prêtre vagabond, un prêtre itinérant, un prêtre sans paroisse fixe?
On me donne tous les titres. Prêtre vagabond est l'un des plus amusants, mais il revient. Donc je pars du mercredi au dimanche. Je tracte une toute petite caravane et l'idée est vraiment de rejoindre les endroits de l'Ariège, un peu paumés, là où il n'y a pas eu de prêtre résident depuis longtemps, ou bien des endroits où un curé me dit tiens, dans tel village, je sens bien qu'il pourrait se passer quelque chose. Est-ce que tu pourrais aller voir? Et puis, donc, pendant quelques jours, j'arrive souvent à l'improviste dans ces lieux-là. J'installe la caravane, je vais voir le maire pour obtenir le droit de m'installer. Et puis, dans ce lieu, pendant quelques jours, eh bien, je prie, je propose à des personnes de venir se joindre pour ces temps de prière. Et surtout, eh bien, je vais à la rencontre des gens. Je fais du porte-à-porte, je propose le passage de la porte de la miséricorde en expliquant un petit peu la démarche. Je propose, oui c'est ça, voilà, de venir vivre une expérience avec la tendresse de Dieu, et que ce soit à l'église ou chez les gens. Voilà.
Alors ça vous est venu, on va dire, progressivement, si j'ai bien compris. Donc vous disiez que vous faisiez ça d'abord à pied, alors peut-être que vous pourrez nous expliquer davantage. Et puis en préparant l'émission, vous m'expliquiez que vous avez vécu comme une sorte de conversion pastorale à la faveur d'un voyage au Québec. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous est venu petit à petit cet apostolat si particulier?
Voilà, il y a quelques années, j'ai exprimé un désir à l'évêque de l'époque, Monseigneur Philippe Mousset. J'avais besoin d'une sorte de pause pour me former sur la question de l'évangélisation aujourd'hui. Et donc, pendant un an, j'ai été accueilli dans un centre d'accueil pour jeunes. Alors j'avais un rôle d'accompagnement dans un centre au Québec, le centre Agapé. Et dans ce lieu, j'étais allé pour rendre service, pour me former sur la mission. Et puis finalement, c'est une conversion au niveau de mon cœur que j'ai vécu grâce aux Québécois et grâce au travail de l'esprit, je crois aussi, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai vécu là-bas un grand changement dans ma façon de voir ma vocation de prêtre. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui m'entouraient, et moi le premier, avaient besoin de fraternité, avaient besoin de proximité, avaient besoin de relations humaines ajustées. Et j'étais jusque-là peut-être dans une façon de vivre ma vie de prêtre à 100 à l'heure, passer d'une activité à l'autre, passer d'un établissement scolaire à l'autre, passer d'une célébration à l'autre. Et tout allait très vite, et finalement j'étais très peu souvent bien présent à la personne que je rencontrais. Et au Québec, j'ai eu besoin, moi, de cette présence. J'ai eu besoin d'accepter d'être aimé dans tous les aspects de ma vie. Et donc, en revenant en France, je me suis dit, il faut que je vive ma vie de prêtre de cette manière-là, en allant offrir cette proximité aux gens que je rencontre, pas courir partout. Et c'est pour ça que j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin et passer plusieurs jours, par exemple pour une fête de village, on appelle le prêtre encore pour célébrer une messe pour une fête de village. Et bien désormais, quand je venais pour célébrer la messe du village de la fête, et bien je disais aux gens, et bien maintenant, je reste avec vous pendant plusieurs jours. Et j'ai très bien vu que ça touchait les gens et qu'ils avaient besoin. Avez besoin de cette présence.
Donc, à l'époque, vous aviez une responsabilité pastorale, on va dire, particulière dans une paroisse, et puis donc vous partiez de temps en temps, c'est ça, en espèce d'expédition ou d'excursion. Vous arriviez dans une paroisse et là vous viviez tout simplement, c'est ça, avec les gens, sans rien faire de particulier.
Voilà, mon curé de l'époque m'a très bien encouragé dans ce sens-là. Alors, c'était à Pamiers, hein, on avait beaucoup de villages autour, et puis à cette occasion des fêtes, eh bien, je partais plusieurs jours et j'étais déchargé du reste du travail sur la ville de Pamiers. Et j'ai pris goût à cette façon de vivre, voilà, et de prendre le temps, de perdre du temps en marchant d'un bout à l'autre d'un village. Mais c'est pas du temps perdu, c'est un moment pour méditer, un moment pour porter dans la prière la rencontre que je viens de vivre. Voilà, savoir prendre le temps, c'est un cadeau qui m'a été offert et il est encore là, ce cadeau.
Donc vous alliez à pied et puis après vous restiez en fait avec les gens, c'est ça?
C'est exactement ça, oui, oui.
Vous dormiez chez l'habitant et puis...
Oui, ça peut encore se produire d'ailleurs, même si j'ai la caravane. Mais voilà, c'est l'idée un petit peu, je veux demeurer chez toi, dit Jésus à Zachée. Voilà, aujourd'hui je veux demeurer chez toi.
Alors là, donc, votre semaine, le lundi vous reposez comme tous les prêtres, le
voilà,
mardi
le
vous
lundi,
faites vos bagages,
je me repose.
Vous astiquez votre caravane et puis après vous partez, c'est ça?
Exactement, oui, on peut dire ça, oui, c'est-à-dire que le lundi est un jour un petit peu pour souffler, le mardi un jour de préparation des missions suivantes. Il faut parfois quand même prévenir les autorités locales, il faut s'organiser, voir quels seront les prochains lieux de mission. Et puis le mercredi matin, eh bien, après les laudes, eh bien, j'attelle la caravane et je pars. Et puis le dimanche, alors parfois il y a une messe au village où je suis, et de toute façon le dimanche soir je rejoins une petite communauté de chrétiens à foi pour une messe qu'on appelle la messe diocésaine du dimanche soir, et qui est un lieu pour moi d'accueil, de fraternité et de relecture, voilà, de l'expérience.
Et entre le mercredi et le dimanche, alors qu'est-ce que vous faites? Comment se décompose? Je sais pas, il y a... Le mercredi, c'est porte-à-porte.
Alors oui,
bon, le jeudi, c'est...
D'une semaine sur l'autre, les choses peuvent évoluer, mais il y a deux grands... Je répartis mon temps en deux grandes parties de la journée. On peut dire que le matin est destiné à un temps spirituel, et si possible, entraîner des gens dans ce temps spirituel, à travers un temps d'adoration, un temps de la messe. Voilà, ces moments-là. Et l'après-midi, des rencontres. Alors, soit on me dit, allez voir un tel, soit je suis dans du porte-à-porte. Et puis, souvent, les repas, eh bien, je me fais inviter. Hein, des gens n'hésitent pas à m'inviter. Donc, tout ça, c'est le temps passé au village. Et puis, chaque jour a un peu sa couleur. Le mercredi, ben, il faut s'installer, il faut faire les premiers contacts. Parfois, aller chercher les clés d'église parce qu'elle est malheureusement bien souvent fermée. Et puis, au fur et à mesure des jours, souvent, on va vers cette célébration du samedi soir. La plupart du temps, le samedi soir, je propose donc un concert, hein, de manière assez large, assez ouverte. Des gens qui n'ont pas trop l'habitude de venir à l'église peuvent se sentir invités, parce que c'est un concert, c'est pas forcément un acte liturgique en soi. Et puis le concert culmine par le passage de la porte sainte. Donc c'est une porte que j'ai fabriquée avec quelqu'un en Ariège, que l'évêque a béni et qui permet pour beaucoup de gens de vivre une expérience de guérison de leur cœur. Voilà.
Est-ce que vous diriez que vous êtes un prêtre missionnaire ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que, à l'intérieur de votre vocation de prêtre, vous avez senti un appel particulier, comme d'autres partaient et continuent à partir à l'autre bout du monde ? Vous, votre appel, c'était de partir à l'autre bout d'ici, en fait, d'une certaine manière.
C'est vrai. Eh bien, il y a toujours cette tension en moi. Faut-il, Seigneur, où est-ce que tu veux que je sois ? Est-ce que tu veux que je sois ici ou ailleurs ? Ici, il y a un appel extraordinaire parce que on est dans le temps de la nouvelle évangélisation, disait Jean-Paul II, c'est-à-dire une époque où les gens ont été... c'est un pays, c'est une région dans laquelle nous avons nos calvaires, nous avons nos églises, nous avons beaucoup de signes d'un christianisme très présent. Et pourtant, de nouvelles familles qui n'ont pas forcément baptisé leurs enfants ou qui se sont intéressés. On est dans un monde où il y a beaucoup de mélanges, y compris au niveau religieux, et l'aspect apporter Jésus-Christ c'est un petit peu étiolé, voilà. Donc c'est une terre de mission, je crois, ici, et moi je suis devenu prêtre aussi dans cet appel du Seigneur. Il y avait une part de deviens prêtre pour c'est une bonne place, voilà, pour pouvoir parler de moi et de mon amour aux gens. Voilà, c'est une bonne place en étant prêtre. Donc j'ai toujours et je m'en suis jamais caché, y compris au séminaire dans ma formation, toujours eu ce désir d'être prêtre en vue d'être à une bonne place pour pouvoir annoncer l'amour de Dieu.
Donc prêtre missionnaire. Alors certains disent que vous êtes avec tendresse, je disais, enfin on espère en tout cas la plupart du temps, prêtre vagabond. C'est vrai qu'il y a quelque chose de déroutant, hein, évidemment. Est-ce que ça fait partie d'une certaine manière de la mission aussi, comme le pape François peut être déroutant pour une partie de l'Église? Est-ce que justement de déplacer les lignes, d'être déroutant, d'être vu parfois peut-être de manière un peu étrange ou caricaturale, d'être nommé comme prêtre vagabond, ça fait partie du job de missionnaire?
Un jour à 7h30 du matin, j'ouvre la porte de la caravane et je trouve là trois personnes, peut-être la quarantaine, qui avaient fait la nuit blanche. Ils avaient encore une bière à la main. Et un gars me dit « Vous ressemblez à un fou avec ses chiens qui s'est posé là avec sa caravane. » Et donc, il a perçu au début quelque chose qui n'est pas du tout ce que je veux donner, moi, comme perception. Et au final, on a eu une très belle rencontre. Il m'a ouvert son cœur en quelques minutes. Peu importe comment je suis perçu. C'est-à-dire que, parfois, je ressemble un peu à un itinérant avec sa guitare. Je peux être jugé injustement, mais... C'est pas ça qui est important. Et puis je fais rien de nouveau parce que les anciens que je rencontre dans les villages me parlent d'une époque un peu lointaine, quand ils étaient enfants eux, ou des prêtres missionnaires, même des prêtres missionnaires diocésains, j'entends cette expression, venaient régulièrement passer dans les villages pour aller à la rencontre de la population, y compris de ceux qui ne fréquentaient pas l'Église, parce qu'on a une vision un peu idéale du passé, un peu extraordinaire. Et il y a toujours eu des cœurs qui ont la foi et d'autres qui ne l'ont pas. La foi est un don, et toujours eu des gens pour essayer de transmettre ce don.
Ça fait partie aussi de la posture de l'évangélisateur que d'être en situation comme ça un peu de pauvreté, hein, de pouvoir être pris aussi pour un illuminé. Est-ce que c'est quelque part un peu une condition sine qua non ?
J'ai l'impression, en tout cas, moi je m'aperçois que se mettre dans cette situation vulnérable, c'est un choix personnel. C'est pas toujours un choix, ça m'est imposé parfois, mais c'est aussi une façon. Enfin, le pape en parle, hein, il nous demande cette pauvreté de cœur dans la relation. Et c'est sûr que si j'arrive en écrasant les gens, la discussion va pas avoir lieu, alors que si j'essaye de me faire plus petit, j'aurai la joie de pouvoir rencontrer la personne et de découvrir des choses chez elle, et peut-être qu'elle aussi ouvrira son cœur. Donc c'est aussi accepter pour moi d'entrer dans une forme de où je suis pas tout puissant et où des certaines barrières que j'ai connues dans ma vie, des sortes de protections, comme un château, tout ça s'est écroulé. Donc oui, aujourd'hui il y a une plus grande facilité de relation avec les gens parce que cette protection a disparu.
Ouais. Alors avant qu'on fasse une première pause musicale, votre évêque actuel, donc Monseigneur Eschen, donc vous a envoyé en mission et dans une interview qu'il a donnée à KTO, il dit que c'est peut-être une des formes d'avenir de la prêtrise. Alors il dit pas que c'est la seule, considérant que voilà dans l'Église, le territoire aujourd'hui géographique ou apostolique va nécessiter et d'avoir de l'imagination et peut-être aussi au vu de de l'importance de la mission, en fait, va nécessiter, je vais y arriver, ouais. J'ai du mal à poser ma question, mais c'est normal, c'est le lundi matin, va nécessiter des formes innovantes comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit et qu'est-ce qu'ils disaient peut-être avec plus de clarté?
C'est le lundi matin pour moi aussi, hein. Je vous rappelle, c'est mon jour où je me repose. Non, simplement, je vais dans le sens, évidemment, de ce que dit mon évêque et moi, j'ai l'impression d'explorer un peu une voie, on ne sait pas. Est-ce que j'explore, donc est-ce que la voie est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, l'avenir le dira. En tout cas, cette façon de visiter les villages dans nos régions, c'est plutôt des villages, eh bien c'est une façon de vivre un ministère sacerdotal dans des régions où les gens sont, de toute façon, s'ils veulent vivre leur foi, ouvrir leur église, c'est pas le prêtre qui va venir le faire à leur place. Donc on essaye de trouver, j'ai l'impression d'être un peu un chercheur, un petit peu dans ma manière de m'exprimer avec vous, c'est-à-dire que je sais pas trop vers où on va. En tout cas, il y a de moins en moins de prêtres et peut-être qu'il y a un appel du Seigneur dans cette réalité d'aujourd'hui, que des gens étant laïcs puissent vivre leur foi localement et appeler le prêtre qui vient à leur service et non pas le prêtre qui... Vous savez, les gens parfois me disent « qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» Et j'aime bien répondre, la question est plutôt « qu'est-ce que moi, comme prêtre, je peux faire pour vous aider ?» et entrer dans cette logique-là.
Proclamons son nom. dynamite tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés, 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 à ses côtés. Annonçons le roi, alléluia, proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de
Voilà, cette émission ce matin, Père Antoine, missionnaire itinérant en Ariège, donc Père Antoine Renaud, qui est prêtre itinérant pour le diocèse de Pamiers. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans le détail de votre mission. Donc, vous dites que vous arrivez dans les villages donc, le mercredi dans la matinée, c'est bien ça?
Oui.
Donc là, on vous voit arriver, en général, on imagine, pas très loin du clocher, vous vous garez. Vous détachez votre caravane et puis là, vous avez une espèce de petit rituel. Vous ouvrez la porte, il y a un panneau. Vous pouvez peut-être nous dire, décrire un tout petit peu.
Ah ben, il faut communiquer très vite. Donc, dès que la caravane est à peu près en place, j'installe un petit panneau qui explique qu'un prêtre est là, se tient là pour quelques jours, que je viendrai frapper aux portes, rencontrer les gens chez eux. Des fois, je mets une petite parole de Dieu ou un petit dessin sympathique. Et puis je viens confier au Seigneur dans l'église les jours qui vont venir. Souvent, il y a un premier contact qui se fait. Alors, quand c'est à l'improviste, vraiment, finalement, on trouve quand même assez vite les quelques personnes qui ont un peu de cœur pour leur église sur place. Souvent, des personnes, des dames, souvent, qui gardent les clés de l'église. Voilà. Donc, ça commence comme ça. Et puis, j'essaye de montrer que je suis là. Hein. J'essaye de le montrer un petit peu. Et dans un village, c'est super parce que très vite, les gens se parlent entre eux. Ils disent, tiens, il y a quelqu'un qui est là. Ah, ben, c'est qui, lui? Ben, c'est un prêtre, etc. Donc, La communication se fait très rapidement, c'est l'avantage d'un village.
Alors, dans l'exhortation apostolique là, du pape François, la joie de l'évangile, il a de nombreuses expressions. À un moment, il dit qu'il faut que un pasteur ait l'odeur de ses brebis. Alors, vous, commençons par ça. En l'occurrence, quand vous arrivez dans ces villages, vous arrivez pour les paroissiens, mais aussi pour les villageois. Alors, comment vous faites pour prendre l'odeur de ces brebis? Donc, vous disiez que vous faisiez du porte-à-porte. Alors, expliquez peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous allez tout simplement toquer et puis vous présenter.
Eh oui. Alors, le porte-à-porte, l'expression, est, c'est vrai qu'elle est un peu maladroite parce qu'elle fait allusion pour nous soit à un discours politique, faire passer absolument une idée, ou bien d'une manière religieuse, des gens qui viendraient pour vous opportuner et vous matraquer un petit peu de croyances.
Ça fait un peu témoin de Jéhovah, c'est ça? Tout le monde a ça
en tête.
Un petit
peu. Et oui, évidemment. Donc, je suis parfois confondu avec un mouvement comme les témoins de Jéhovah. Mais donc en fait ma démarche elle est fondée bibliquement, par exemple dans une vision de l'Apocalypse où le Seigneur se tient à la porte voici que je me tiens à la porte et je frappe, et celui qui m'ouvrira, eh bien, je viendrai chez lui et nous prendrons le souper ensemble. Donc c'est l'idée d'une proximité, c'est l'idée de que je sois, en frappant à la porte, c'est toujours ma prière, que je sois visage de miséricorde pour la personne. Et je ne viens pas pour l'asséner de vérité, mais je viens comme un mendiant quelque part, un petit peu, disant mon désir de relation, mon désir de rencontre. Et je viens au nom du Seigneur, à un moment ou l'autre, ça pourrait être exprimé peut-être. Mais voilà, la démarche est celle de quelqu'un qui est un petit peu un mendiant dans la rencontre. Voilà.
Donc vous faites ça, et alors de ce porte-à-porte ou de ce rencontre à rencontre, est-ce que vous avez quelques fioriti qui disent un peu la fécondité de ce que vous faites, ou est-ce que 9 fois sur 10 vous dit merci, bonsoir, j'avais pas besoin
En fait, c'est assez rare qu'on me rejette complètement comme ça. C'est, bien sûr, ça arrive, et c'est une bonne chose que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quand quelqu'un me rejette violemment, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, bien sûr, humainement, c'est pas facile à vivre, mais la raison revient vite. Et puis, de se dire que cette personne a posé un choix quelque part, et elle l'assume. Et moi aussi, si je suis là, c'est parce que je suis libre encore de le faire. Donc, c'est une bonne chose qu'on me refuse aussi. Mais la plupart du temps, eh bien, il y a au moins une petite discussion. Et quand la personne me dit « mais venez passer un petit moment à la maison », là, j'aimerais dire c'est gagné. C'est-à-dire que je sais qu'on va pouvoir parler de choses importantes. Au Québec, on disait des vraies affaires. On va pouvoir parler des vraies affaires.
Oui, parce qu'il faut le préciser, quand on rentre chez quelqu'un, évidemment, cette personne aussi fait un pas très important. Et là, vous n'avez pas du tout le même type de conversation, on imagine, que quand vous êtes dans la rue.
Et bien sûr, quand une personne m'ouvre sa porte et qu'elle me fait rentrer chez elle, c'est qu'elle me fait confiance déjà. Alors, bien sûr, il y a vis-à-vis du prêtre une confiance qui est là quand même dans notre pays. Nous sommes reconnus comme prêtres. Ceci dit, il faut quand même du courage. Les gens me disent parfois ne regardez pas le bazar, etc. Et puis ceux qui m'ouvrent le plus facilement leurs portes sont en fait les plus pauvres, les gens qui vivent le plus simplement, des gens qui ont vécu de grandes galères et qui ont besoin aussi d'en parler. Et je deviens à ce moment-là vraiment une oreille attentive, et puis peut-être aussi pour certains, en tout cas j'ai déjà eu quelques échos, une source de consolation pour eux, et ça je sais que c'est le travail du Seigneur à travers moi pour eux.
Est-ce que vous avez quelques fioriti de vos rencontres, on va dire, une ou deux rencontres, visages et situations que vous pouvez nous décrire un peu aussi par le
moment? J'aime bien parler d'une petite fille qui, à l'heure du goûter, me fait rentrer chez elle. Elle dit, maman, qui vienne. Alors, j'arrive à la maison, la maman est là, il y a les trois enfants autour de la table, on mange une biscotte. Et puis, la petite qui me dit, vous dites qu'on peut accueillir Jésus, qu'il est là, mais comment on fait? Alors je lui dis, tu vois, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Alors si tu veux passer un moment avec lui, il suffit que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Et puis, elle me dit, mais il fait comme vous, en fait. Il est devant la maison et il frappe. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais c'est une de mes premières expériences, celle-ci, et je la retiens encore parce que cette petite fille, elle m'a éclairé. L'Esprit Saint, à travers elle, m'a éclairé sur ce que j'étais en train de faire, frapper à la porte des gens et pour qu'ils puissent, en ouvrant leur porte, ouvrir un petit peu leur cœur. Et puis je pense aussi à une autre rencontre plus récente, plus délicate à raconter, mais que j'aurais pas pu vivre d'une autre manière qu'en venant comme ça dans un village. Donc je passe dans une rue et puis j'entends de la musique assez violente que j'écoutais moi-même à une certaine époque d'ailleurs, de la musique métal. Et alors je me dis tu vas frapper à cette porte. Alors je frappe une première fois, enfin je sonne, une deuxième fois, troisième fois la porte s'ouvre et là je tombe sur deux gars. Torse nu, le visage était pas forcément très, il était plutôt accueillant le visage, mais qui jouait un rôle un petit peu et qui me disent, ouf, vous frappez pas à la bonne porte, mon père. Je dis mais pourquoi ? J'essaye de rentrer un peu dans leur jeu et puis ici on n'est pas, on est croyant mais pas les mêmes choses que vous, etc. Et puis un autre qui, enfin donc le deuxième personne qui surgit derrière la porte, qui était entrouverte et qui brandit un couteau et qui le place sous la gorge de son compère et vraiment si vous voulez j'ai eu le sentiment à ce moment-là. Il y avait une grâce, hein, j'avais pas peur, mais le sentiment d'être Jésus qui frappe aussi à la porte des enfers quelque part pour les traverser, pour sortir de l'enfer un jour et ouvrir les portes du paradis. Et j'avais vraiment je me suis dit Seigneur, là, ça me dépasse ce qui est en train de se passer. Et je sais que j'ai été Jésus dans leur délire à ce moment-là, qui frappait à leur porte pour leur dire je suis là avec ma miséricorde pour vous. Je sais pas s'ils ont compris ce message-là ce jour-là, mais aucune rencontre n'est là par hasard. Voilà.
Est-ce que si quelqu'un, après, vous ferme la porte au nez, ou après, imaginons cette rencontre, il veut vous retrouver, vous finissez par être connu un peu dans le diocèse et il peut revenir vers vous, ça arrive parfois ou pas du tout.
Mon numéro de téléphone est bien affiché sur le tableau à côté de la caravane. Et puis des fois j'ai eu des petits mots à la caravane, venez me voir à telle adresse. Je me souviens dans un village une personne me laisser un petit message parce qu'elle avait entendu que j'étais là, elle habitait un peu plus loin. Et elle m'a dit, si vous pouvez passer à tel moment, je serais très heureuse de vous accueillir. Et j'y suis allé. Et j'ai su plus tard hein, que c'est, pour cette personne, c'était un effort extraordinaire. Enfin, pas un effort, mais un changement extraordinaire d'accueillir un prêtre chez elle. Parce que c'était pas gagné pour cette personne-là, le lien avec l'Église. Voilà.
Alors, on va dire c'est les villageois, on va dire le grand public. Évidemment, vous venez aussi pour les paroissiens. Ma question est un petit peu provoque là, c'est-à-dire qu'on peut se dire il a la tâche un peu facile, il vient 4-5 jours et puis il nous fait un concert, il fait du porte-à-porte, il parle de Dieu et puis après les affaires courantes sont pour d'autres. Est-ce que c'est parfois le retour qu'on vous fait ou on peut vous accuser de trouver ça, je sais pas, un peu léger ou je dirais pas inconséquent pour pas être indélicat, hein, mais enfin j'imagine que c'est parfois des critiques que vous avez, donc autant les lever.
Alors il y a une demande de la part de certains paroissiens dans des villages, évidemment à ce que je revienne, mais je ressemble dans beaucoup de cas, c'est parce qu'on idéalise le retour du prêtre qui vient réorganiser la vie de la communauté, qui viendrait résider là. On me parle souvent des curés de l'ancien temps, en bien ou en mal d'ailleurs, mais on me dit « Ah, tel prêtre était comme ça, et celui-ci comme ceci, et celui-là il m'a fait du bien, et celui-là il était chouette ». Et en fait, avec des paroissiens, parfois, on en reste à des questions d'organisation, que je comprends et qui sont légitimes, mais on parle pas souvent des vrais sujets, des sujets qui vont jusqu'au cœur. Il m'est arrivé avec des paroissiens de dire, vous savez, mais je suis là pour quelques jours. La dernière fois qu'un prêtre est venu, c'était pour une sépulture ou pour la fête du village. Moi, je viens passer quelques jours avec vous. Vous savez, je serai disponible. Vous qui êtes croyant, vous avez peut-être besoin de vivre les sacrements. Je suis là aussi pour vivre pour vous proposer le sacrement de réconciliation. Et j'en ai entendu se moquer, rire en disant, ah, il y a bien longtemps qu'on ne s'est pas confessé et on n'est pas prêt à le faire. Et pour moi, c'est une souffrance. C'est-à-dire que d'un côté, je vois des gens loin de l'église qui sont ouverts à cette démarche de miséricorde, qui se disent, tiens, il y a un message d'amour qui est proclamé dans le village. Et de l'autre, parfois, du côté des plus habitués de l'Église, une distance, finalement, par rapport à cette démarche d'abandon entre les mains des gens, voilà. Mais il y a aussi un aspect très positif, et qui l'emporte, bien sûr, c'est pour certains la découverte ou l'encouragement, parce que parfois c'est juste un simple encouragement, ma présence vis-à-vis des quelques croyants qui sont là. Donc une découverte de l'importance de se rencontrer dans un village, d'aller frapper à la porte de son voisin, même si on le connaît pas, de faire connaissance, même si on va pas parler tout le temps du bon Dieu. Voilà, en tout cas, certaines personnes, parfois dans les villages, m'accompagnent dans ce travail de rencontre à rencontre, comme vous disiez, ou de porte à porte, c'est-à-dire sont avec moi pour vivre la rencontre auprès de leurs voisins. Et ça, c'est ce qui me réjouit le plus. Et ça leur donne parfois envie de s'y mettre après mon départ.
Alors, parmi tous les gens que vous rencontrez, il y a évidemment beaucoup de personnes qui sont des pauvres, comme on les appelle. Alors, moi, je préfère souvent mettre des guillemets à ce mot. Et vous dites souvent que c'est eux, alors vous l'avez dit un petit peu là au début de cette seconde partie, que c'est eux qui vous font le meilleur accueil. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie, nous donner des exemples?
Concrètement, c'est parfois ceux-là qui, au moment où je suis en train d'installer la caravane, mais qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Enfin, qui n'ont pas de barrière en fait dans la relation, qui sont pas conditionnés non plus par un certain rapport au prêtre qu'on adule un petit peu, qu'on adore comme le bon Dieu envoyé dans le village. Non, il y a une relation beaucoup plus simple avec moi, et puis qui pense à des choses du quotidien, qui nous dit si vous avez besoin de quoi que ce soit, ce qui concerne les choses, les commodités du quotidien, ben ma porte est ouverte, vous pouvez prendre la douche à tel endroit, voilà. C'est-à-dire que souvent, et puis ils sont en recherche parfois étant eux-mêmes, à cause de cette condition de pauvreté, étant eux-mêmes jugés, condamnés dans leur propre village, c'est malheureux à dire, mais c'est une réalité. Parfois, ils se sentent enfermés dans un regard, et parfois il y a des raisons, et donc un regard que les autres portent sur eux, et ils voient bien que moi je suis pas là pour porter ce regard qui les enferme, d'où aussi leur attention à mon égard et leur accueil, voilà. Donc je suis souvent touché par l'accueil des plus simples, des plus pauvres. Ouais, il n'y a pas de distance entre eux et moi.
Maître Jésus, pourque meurs-tu? Maître Jésus, venez et voyez les merveilles du Seigneur, il veut en vous combler de ses faveurs. Venez et voyez les merveilles du Seigneur, il veut en vous combler de ses faveurs. Maestro Jesús, donne vivez. Venez à moi, vous qui peinez sous le fardeau, je vous appelle à prendre le flambeau. Venez à moi, vous qui peinez sous le fardeau, je vous appelle à prendre le flambeau. Suivez-moi, je suis le Fils de Dieu, et vous aurez un trésor dans les cieux. Venez et suivez-moi, je suis le Fils de Dieu, et vous aurez un trésor dans les cieux. Arrachez de vos cœurs toutes vos idoles. Vous tous venez à moi, écoutez mes paroles. Arrachez de vos cœurs toutes vos idoles. Père Jésus, bon Dieu. comme les campagnes sont blanches pour la moisson. C'est moi qui vous appelle par votre nom. Cœur des bâtisseurs de l'an 2000, soyez des jeunes apôtres de l'Évangile. Je suis au cœur des bâtisseurs de l'an 2000, soyez des jeunes apôtres de l'Évangile. Je suis au cœur des bâtisseurs de l'an 2000, soyez des jeunes apôtres de l'Évangile.
Radio Présence dans la vallée du Lot, 92.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission ce matin donc avec le père Antoine, missionnaire itinérant en Ariège, donc prêtre itinérant pour le diocèse de Pamiers, le père Antoine Renaud. Alors, père Antoine, vous vous promenez pendant votre mission avec une porte itinérante, donc en cette année jubilaire. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble cette porte ? Je sais qu'il y a une porte comme ça qui s'appelle l'autre porte pour le diocèse de Toulouse, qui est allée jusqu'en prison, qui va à la rencontre en fait de différentes réalités, où c'est un peu la même démarche que vous, c'est-à-dire que les gens ne vont pas forcément à l'église, mais l'église vient à eux. Vous, cette porte, à quoi elle ressemble ? Et puis, quel type de démarche vous proposez aux gens ? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe ?
Alors, c'est une porte très rustique, transportable, donc pliable, en bois. Et actuellement, après quelques mois de mission, eh bien, cette porte est recouverte de nombreux prénoms qui ont été gravés, enfin qui ont été écrits au feutre. Donc elle est il y a de nombreuses couleurs sur cette porte, des prénoms devant, derrière, voilà. Et donc c'est une porte qui est taillée aussi aux dimensions de la caravane pour pouvoir être installée, enfin pour pouvoir être transportée grâce à la caravane. Et puis quand j'arrive dans un village, eh bien je monte cette porte, soit au niveau de la porte d'entrée de l'église du village ou pas loin du chœur à l'intérieur. Et je propose donc aux gens un moment dans la semaine de venir vivre une démarche à travers le passage de cette porte.
Alors comment vous expliquez ? Parce que c'est vrai que à la limite pour des chrétiens on peut comprendre, même parfois on a du mal en fait à intérioriser complètement la démarche et tout ce qui va avec. Comment vous expliquez ça au grand public ?
Je démarre en présentant ce désir qu'a eu le pape de cette année de la miséricorde. C'est-à-dire que je dis que le pape a ressenti quelque chose dans son cœur, que c'est le bon moment pour l'humanité pour vivre quelque chose, des guérisons au niveau de leur cœur. Voilà. Alors s'ils sont croyants, eh bien que ça va pouvoir se vivre avec l'aide de Dieu. Et puis si cette notion de Dieu est trop difficile pour eux, eh bien je leur dis, on peut au moins se joindre à cette démarche du cœur que les croyants sont en train de vivre, c'est-à-dire quelque chose que nos cœurs ne sont pas faits pour se refermer. C'est souvent ça que je dis. Ils sont faits pour se dilater et pour se donner. Quand on regarde l'histoire de chacun, on voit bien qu'on est heureux dans ce moment-là et que un cœur fermé, un cœur blessé, voilà, entraîne à un refermement sur soi et qu'on n'est pas fait pour ça. Et donc j'explique que en passant cette porte, on va pouvoir vivre un passage. On va pouvoir vivre un moment où ceux qui ont déjà passé la porte en sont les témoins. Eh bien, leur cœur s'ouvre, se dilate, s'apaise. Voilà. La semaine dernière, encore c'est tout frais là, une personne me disait juste après avoir passé la porte, Alors, il y a toute une petite ambiance que je propose en vivant cette démarche. Et en tout cas, cette personne me disait, eh ben, écoutez, je vais revenir la semaine prochaine dans le village où vous êtes, notamment parce que quand je suis venu aujourd'hui avec mon fils, eh bien, j'étais apaisé. Voilà.
Donc, les gens passent la porte, ils gravent leur nom.
Oui, alors, tout simplement, je fais un concert avant, parce que j'aime beaucoup m'exprimer et prêcher en musique, quelque part. Prêcher l'amour de Dieu, prêcher la vie qui est plus forte que la mort. Je vais très loin dans mes compositions en termes d'annonce, voilà, du Seigneur qui traverse les souffrances de notre existence. Et puis, donc, les cœurs sont prêts, quelque part, à s'ouvrir, à soit, si c'est une difficulté dans la vie de la personne, à s'aimer elle-même, à s'accepter telle qu'elle est, et bien à vivre une démarche de graver son propre prénom sur cette porte, en disant oui, j'existe pour Dieu, je suis vivant, et j'écris mon prénom sur cette porte avant de la passer, soit reconnaître que mon cœur est fait pour aimer, et je marque le prénom d'une personne que j'aime beaucoup, ou qui m'a appris à aimer. Et puis je propose aussi l'écriture d'un troisième prénom pour les cœurs les plus blessés en relation. Telle personne, je pense à cette personne, et bien mon cœur se ferme en pensant à cette personne. C'est comme si j'allais en enfer quelque part quand je pense à cette relation-là. Et bien, même si je suis pas encore prêt à pardonner, j'accepte que cette personne, elle soit existante, qu'elle soit vivante, et je marque son prénom. Peut-être qu'il y a là aussi une démarche de guérison de mon cœur vis-à-vis de cette personne-là. Et donc, je peux écrire ce prénom aussi sur la porte, et puis vivre, passer la porte. Et de l'autre côté de la porte, et bien, quelqu'un m'accueille, c'est-à-dire que j'invite les gens à non seulement se saluer, mais s'embrasser derrière la porte, c'est-à-dire
dans des gros hugs, c'est ça, vous faites?
Ouais, voilà, à l'américaine, je les invite à se serrer dans les bras parce que je prêche aussi un Jésus incarné, et donc un Dieu qui a voulu que nous puissions exprimer l'amour par toutes les dimensions de notre humanité, notamment notre corps. Voilà, et je me souviens un petit souvenir, c'est dans un village, eh bien un homme avec tous ses tatouages, ses piercings sur le nez, un jeune papa quoi, et accueillir une petite mamie de la paroisse, beaucoup plus classique, on a plus l'habitude de la voir dans l'église, et tous les deux s'embrassant tendrement derrière la porte. Voilà, l'église, c'est le rassemblement, et il s'est passé quelque chose ce jour-là qui a rassemblé des gens du village. Je pense aussi à un autre exemple, en passant cette porte, j'ai cru comprendre que des gens étaient divisés dans un village, ils ont été étonnés de se retrouver ce soir-là dans l'église, et ils se sont laissés guider, ils se sont laissés porter pour finalement vivre un premier moment de réconciliation à travers cette démarche, et ça se voyait sur les visages, quelle joie.
Qu'est-ce que vous diriez, enfin deux dernières questions pour finir, donc ce jubilé vous le vivez donc de village en village, vous avez l'impression que ça transforme quelque part un petit peu l'église, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette démarche du pape François, là vous l'avez décrite, on entend évidemment l'écho que ça trouve dans votre cœur de prêtre, mais l'année sainte, cette année jubilaire, pour les journalistes en tout cas, alors j'imagine que peut-être pour certains auditeurs, sauf pour ceux qui ont passé la porte sainte, c'est difficilement palpable. Alors est-ce que vous voyez des fruits invisibles comme ça, et vous avez l'impression que ça change quelque chose?
Une petite lumière là-dessus, c'est un petit peu en comparant avec la démarche que je vis quand j'arrive à l'improviste dans un village. Les gens sont parfois un peu surpris et gêné de ce côté, mais vous auriez pu nous prévenir, on se serait organisé, on aurait organisé une réunion, on aurait fait venir les gens. Regardez, on n'est que quelques-uns. Ça, c'est ce que me disent les cathos dans le village. Et il y a un côté improviste dans ce que je propose. Pas toujours, mais souvent c'est ça. Et donc, pour eux, moi je me dis, pour les personnes qui étaient là ce jour-là, c'était le bon moment. Et ces gens-là ont été appelés à venir, et celles qui étaient en voyage, celles qui n'ont pas su, celles chez qui j'ai pas frappé à la porte, n'auront pas été au courant à ce moment-là, mais on en parle après et on comprend après ce qui s'est passé. Eh bien, je crois que l'année jubilaire que nous sommes en train de vivre, elle se passe un petit peu de cette manière-là, c'est-à-dire qu'elle a été annoncée tardivement par... par le pape, il a pris une décision très rapide, les médias, enfin, on a communiqué tardivement sur cette année, elle est en train de se dérouler, il y a beaucoup de gens, y compris dans le milieu chrétien, qui n'ont pas encore découvert que c'était une année sainte, que c'était une année de grâce. Eh bien, je me dis, c'est pas grave, il y a ceux qui sont prêts et ceux qui le découvriront plus tard et quand on va relire, quand on reprendra, quand on découvrira ce qui s'est passé cette année, on va être émerveillé. Voilà, c'est la vision d'espérance que j'ai sur cette année qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire que certains sont prêts et d'autres découvriront plus tard, ils verront les grâces qui ont été données parce qu'ils verront des gens qui ont vécu une vraie conversion dans leur vie, qui se sont mis à s'intéresser à leur voisinage, qui se sont mis à... vous venez de parler de visites dans les prisons avec une porte itinérante aussi. Eh bien, ça me réjouit. C'est-à-dire que il est en train de se passer des choses comme dans l'Évangile. Hein, on n'avait jamais vu ça. On entend ça parfois. Quand les gens disent « on n'avait jamais vu ça », c'est un signe de l'Esprit-Saint. Et il faut le temps de s'en apercevoir.
Alors pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est votre programme de l'été? Et puis j'ai cru comprendre qu'on pouvait vous rejoindre. Alors c'est le moment de faire un
oui,
coup de
je vous
pub
remercie.
Pour tous les gens qui se sentiraient une âme missionnaire et puis peut-être de les rassurer. C'est pas forcément non plus compliqué à faire.
C'est pas compliqué du tout. Alors je propose pour l'été effectivement de pouvoir me rejoindre. Vous savez, Jésus nous envoie deux par deux sur les routes. J'ai présenté ici dans l'émission beaucoup d'expériences vécues seules comme prêtre. Ceci dit, j'aurais pu aussi raconter tous les moments où des paroissiens se sont joints à moi pour vivre cette expérience missionnaire d'accueil dans les églises ou de rencontre à la maison. Donc cet été, eh bien, je vais être plus particulièrement dans le Couseran pendant le mois d'août, donc une petite région d'Ariège. Et pendant l'été, eh bien, on pourra me rejoindre. Il y a un site internet qui s'appelle Les Paroissiens. Vous tapez Les Paroissiens sur Google. Il y a une page spéciale qui accompagne ma mission. Et là, il y a un lien pour s'inscrire, pour venir me rejoindre. Tout est expliqué.
Eh ben, merci beaucoup, Père Antoine Renaud, d'être venu nous parler donc de votre ministère si particulier. Père Antoine Renaud, donc prêtre itinérant pour le diocèse de Pamiers. Merci. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.